Donald Cucciolletta, bonjour.
Bonjour, Louis.
On va parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis. On avait vu, évidemment, toute la controverse entourant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki. Ben là, il veut remettre ça, mais à la Maison-Blanche cet automne.
Oui, les rumeurs circulent qu'il veut inviter cet automne Vladimir Poutine à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, Moscou a déjà répondu en disant qu'on est intéressé, nommer la date, puis le lieu, puis on va être là.
Bon, mais tant mieux.
Fait que si on appelle ça, je trouvais, sur l'huile sur le feu.
Oui.
J'ai dit, mais il y a quelque chose en arrière de tout ça, parce que ça va amener de l'incendie, c'est évident. Je pense que, je réfléchis à ça, je me dis, pourquoi qu'il fait une chose pareille? C'est sûr que ça va énerver encore davantage les démocrates, que eux, présentement, mènent, on peut dire, le discours vis-à-vis cette rencontre à Helsinki, le critique, le condamne, le traite, même de dire que c'est un traître à la nation, etc. Là, il met l'huile sur le feu.
Ouais, mais alors, moi, je mettrais un vieux 2 là sur le fait qu'ils vont faire ça avant les élections de mi-mandat.
J'espère, parce que sinon, c'est une stratégie qui se tient pas, mais pas du tout. Hein?
Ouais.
Quelque part, mais l'autre affaire, moi, je pense que derrière tout ça aussi, on sait que M. Brett Kavanaugh venait d'être appointé par M. Trump comme le candidat à la Cour suprême, puis on sait que les démocrates ont une stratégie de prolonger sa nomination jusqu'après les mi-mandats du mois de novembre, en espérant qu'il gagne la majorité au Sénat.
Mm-hmm.
Fait que peut-être en envoyant la question de l'huile sur le feu avec la venue de Poutine à Washington, c'est de diviser finalement les démocrates vraiment, puis d'en faire tellement de choses qu'ils ne peuvent pas courroyer quatre lapins en même temps.
Ouais.
Fait qu'il y a une stratégie derrière ça, parce que sinon tu dis, c'est quoi là? C'est juste jeter l'huile sur le feu pour faire les incendies un peu partout, les incendies pour les démocrates.
Ouais.
C'est ça, moi je pense. Parce que Brett Kavanaugh, les républicains, les conservateurs de tout genre aux États-Unis veulent avoir la majorité à la Cour suprême.
Mais là, on voit aussi que Donald Trump veut essayer de sauver, en fait, la face là, par rapport à ce qu'il a fait cette semaine un petit peu plus tôt à Helsinki. Parce qu'il dit, si Vladimir Poutine, si les discussions avec lui ne devaient pas réussir, je vais devenir son pire cauchemar.
C'est ça.
Là, il veut dire, regardez, c'est pas vrai que je suis mou avec.
Non. En plus de ça, j'ai pas peur de l'inviter à la Maison-Blanche.
Exact.
Parce que je vais vraiment parler sur mon territoire, chez nous. Puis là, vous allez voir comment je vais le traiter. Mais, en tout cas, des fois, il faut rire, mais des fois, c'est pas drôle non plus.
Hein, ouais.
Je veux dire, quelque part. Mais c'est clair qu'il y a une stratégie derrière ça. Tu as peut-être tout à fait raison aussi, Louis, par rapport à cette stratégie-là, de le ramener sur le territoire américain pour donner, finalement, Donald Trump une deuxième chance pour vraiment s'attaquer à Vladimir Poutine, puis finalement, lui faire savoir qu'est-ce que l'Amérique pense de la Russie.
Exact, voilà.
C'est ça, mais il y a d'autres choses aussi. Fait qu'il y a plusieurs stratégies derrière tout ça, parce qu'avec tout ce qui se passe présentement, on lit les journaux, particulièrement ceux qui sont proches des démocrates. Je dis, écoute, on le traite. Donald Trump traite à la nation.
Ouais.
S'ils sont capables de prouver ça, là, on s'en va vers la destitution, mon ami.
Exact. Ouais.
Fait que là, écoutons, c'est de la haute trahison, ça, là.
Lui qui veut se représenter, d'ailleurs, en 2020.
Ah oui, oui, c'est déjà, d'ailleurs, il ramasse de l'argent, il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent déjà en caisse.
Bon. En Suède, le Parti démocrate, qui est un parti d'extrême droite, a obtenu 20% dans les derniers sondages.
Oui, les derniers sondages, on sait qu'il y a une élection nationale le 9 septembre. Puis présentement, si on regarde la disposition des pourcentages sur l'ensemble des élus, ils détiennent finalement le pouvoir, la balance du pouvoir. Ça veut dire qu'un parti d'extrême droite en Suède détient la balance du pouvoir. Puis il y a certains spécialistes sur la Suède, puis même les journalistes suédois le disent, que si ça continue dans ce sens-là, il pourra même être le gouvernement minimalement minoritaire.
Ah oui, hein?
Fait qu'évidemment, l'image qu'on a toujours de la Suède, qui est un pays qui a été longtemps sous la gouverne des social-démocrates, qui nous a amené un modèle que même si, des fois, au Québec, on a même choisi certains éléments de ce modèle-là aussi.
Oui. Avec des programmes sociaux très importants.
Très importants, rôle de l'État, le keynésianisme au pouvoir, etc., etc.
Mais aussi, un taux de taxation très, très, très élevé.
Ben oui, ça, c'est, mais ça, au Québec, on est taxé aussi, n'est-ce pas?
Oui.
approprié pour tout ça. Mais ici, ils ont voté pour des conservateurs modérés, mais aussi, nous autres aussi, on a voté pour des conservateurs modérés. Tout ça qui fait que finalement, ça n'a pas touché le système. Mais là, on a un parti qui s'appelle le Parti démocrate. Ils se sont donné le nom Parti démocrate, qui sont anti-immigrants. Ils veulent expulser les immigrants de la Suède. Et en plus, ils veulent quitter l'Europe.
Un autre.
Puis là, on entend parler en Italie aussi avec le mouvement 5 étoiles et la Lega del Nord, les néo-fascistes, il faut le dire. Eux autres disent qu'ils veulent quitter aussi l'Europe.
Alors, il y a un durcissement en Europe.
Absolument.
Ouais.
Il y a un enjeu en Europe extrêmement, extrêmement grave, puis ça vient de l'extrême droite. Même Orban, le premier ministre de Hongrie, a dit peut-être on va envisager nous aussi. La Pologne pense la même chose. Il y a plusieurs pays maintenant d'extrême droite ou proches de l'extrême droite qui décident peut-être qu'ils vont quitter là. Donc l'Europe est vraiment divisée et sous-divisée. Comment régler tout ça est la question.
Oui.
Fait que là, on voit qu'en Suède, finalement, l'extrême droite a une possibilité de prendre le pouvoir. On sait qu'ils sont forts aussi en Norvège, donc les pays scandinaves. En Danemark, c'est la droite qui est au pouvoir. Eux aussi, finalement, sont anti-immigrants. Ils veulent faire des expulsions. Puis, il y a des rumeurs, eux autres aussi, que peut-être ils quitteraient l'Europe.
OK. Alors,
ouais, c'est ça, là. Hein?
Le monde est...
Le rêve européen qu'on a eu depuis plusieurs années pour montrer une nouvelle façon de gouverner et de briser les frontières entre les nations.
C'est en train de s'effriter tranquillement.
C'est en train de s'effriter, effectivement.
Ouais. Bon, au Nicaragua, maintenant, la révolte pour déloger le président Daniel Ortega continue. Il y a plusieurs morts. Là. On parle de 300 personnes qui ont été tuées depuis le début des manifestations. Hein.
Oui, depuis la fin avril, 300 morts et aussi plusieurs milliers de blessés puis plusieurs d'autres en prison.
Ouais.
Donc, on sait qui est Daniel Ortega. C'est celui qui a mené la révolution contre la famille Somoza, les fameux sandinistes qui ont pris le pouvoir en 1980. Il a gouverné à ce moment-là. Il s'est fait mis dehors par une élection. Il est revenu au pouvoir dernièrement. Et non seulement lui est revenu au pouvoir, mais il a placé son épouse comme vice-président de la nation, que tout le monde haït en Nicaragua. Et donc, les mouvements de plus en plus grossis, c'est vraiment rendu quasiment au stade de la lutte armée.
Oui.
Les gens sont cagoulés dans la rue, les mitraillettes à la main, ça s'entretue, etc., etc., qui fait que finalement, on veut qu'ils s'en aillent, qu'ils pas attendre les prochaines élections, là. Qu'ils démissionnent, qu'ils s'en aillent. La question se pose toujours, quand on parle de l'Amérique latine, quand on parle surtout, dans ce cas ici, de l'Amérique centrale, qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est les Américains?
Oui.
Parce qu'on sent qu'avec le retour de Donald Trump, les États-Unis reviennent en Amérique latine. On voit aussi les changements dans les gouvernements en Amérique latine. On voit les changements de gouvernement, les possibilités aussi de coup d'État au Venezuela contre Maduro. Mmh. Et là, on voit que la question de Daniel Ortega. Il faut dire aussi qu'Ortega gouverne comme s'il était à Somoza.
Oui.
Il est devenu vraiment quelqu'un de droite, lui-même on dit d'extrême droite. Donc, il n'est plus le Daniel Ortega que la gauche avait comme intronisé dans les années, au début des années 80, comme le héros de la révolution anti-Somoza.
Il y a entre autres une mesure qui fait en sorte que si vous voulez avoir un emploi au Nicaragua, il faut avoir une carte du parti, sinon vous ne pouvez pas avoir d'emploi.
Oui, tout à fait. C'est pas la méritocratie, là. C'est qui on connaît, puis en quel parti on se tient. C'est pas nécessairement la démocratie, là, n'est-ce pas?
Exactement. Et en Chine, ben, on continue à étendre, ses tentacules sur le continent africain.
Oui, on parlait de ça l'autre jour, le moment que la Chine se place en Afrique. Puis là, je voyais aujourd'hui qu'ils sont rendus, que même le président Xi est à Abu Dhabi.
Oui.
Puis à Abu Dhabi, on sait qu'il fait partie de ce qu'on appelle le deuxième route de soie que les Chinois sont en train de construire à partir de la mer de Chine, l'océan Indien, allant jusqu'en Iran, à Abu Dhabi, puis l'Afrique, puis après ça vers l'Europe. Et donc, avec des ports de mer qu'eux-mêmes sont en train de construire. Donc, le président Xi est à Abu Dhabi, puis il dit qu'il est là pour signer un partenariat stratégique global. Fait que vous voyez, la Chine, au niveau de sa politique de charme continue, on a parlé cette semaine par rapport aux 21 pays arabes où les Chinois étaient prêts à investir 23 milliards de dollars dans l'industrie du pétrole et de gaz, qui fait que là, on voit en Afrique aussi, ça veut dire que de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, beaucoup qui regardent la question des États-Unis, comment ça se fait que les démocrates voient la Russie comme l'ennemi numéro un des États-Unis quand on regarde la façon que la Chine opère présentement.
Oui.
S'il y a quelqu'un qui va lancer, disons, le challenge aux États-Unis, c'est bien la Chine pour le 21e siècle.
Oui.
Puis là, on le voit, là.
Et si on regarde l'intérêt que la Chine peut avoir pour l'Afrique, là, c'est pas trop compliqué à comprendre.
Oh non.
L'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes.
Oui.
Et c'est des ressources naturelles à profusion, là. Il y a des ressources naturelles importantes. On parle
absolument
de terres rares, on parle de,
oui,
de métaux importants, de métaux comme l'or, oui, par exemple, et d'autres métaux précieux. Donc, il y a quand même des richesses importantes dans
absolument
un continent très pauvre.
Absolument, absolument. Ouais. Puis l'autre aspect, il faut dire qu'ils ont une longue histoire en Afrique. Ça date de l'époque de Mao Zedong au pouvoir.
Ouais.
Où est-ce qu'ils ont, sur toute la côte est de l'Afrique, en partie de la Tanzanie et ouais, autres pays, qui se disaient à l'époque des pays socialistes à l'africaine, c'est les Chinois qui ont construit les chemins de fer,
mm-hmm,
les ports de mer et tout ça. Fait qu'ils ont une longue histoire de leur présence sur laquelle ils peuvent se baser pour convaincre les nouveaux gouvernements qui sont en place.
Ouais. Alors, c'est à suivre.
Oh oui, absolument.
C'est vraiment le monde est en mouvement, dirons-nous.
Ben, c'est vraiment l'échiquier géostratégique. Hein? On en regarde un jeu d'échecs, puis c'est exactement ça que le monde est devenu. Puis c'est toute une question de géostratégie, puis même, je dirais même, géoéconomique, comme tu l'as expliqué, toute la question des ressources naturelles et tout ça. Il y a une course pour les ressources naturelles sur notre monde, entre les puissances qui sont capables de les exploiter.
Donald Cucciolotta, merci d'avoir été avec nous.
Plaisir.